Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Hubert Balolagi.
À la une ce soir, élection de décembre 2023, alors que la campagne se poursuit sur terrain, Delice Sangaloui annonce ce dimanche son ralliement à Moïse Katumbi pour, je cite, « construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple ». Début ce dimanche du retrait de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est en RDC, le premier contingent a quitté Goma ce dimanche matin. À cet effet, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement de prendre des mesures pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Notre invité ce soir est Omar Kavota, chef d'antenne du PDD RCS à Beni. Il nous parle de la récente formation sur l'enregistrement et l'identification des armes et munitions à Beni, au Nord Kivu. Formation assurée par la cellule Embargo sur les armes de la MONUSCO. Madame, Monsieur, bonsoir. Présidentielle 2023 pour commencer. Le candidat président d'Elysée Sanga se désiste au profit de Moïse Katumbi. Il l'a fait savoir ce dimanche au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. J'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre les gestes à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple qui en ont grandement besoin, explique Delice Sanga. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irunga.
Pour ma part, mon engagement reste total. Si je me joins à lui, c'est pour contribuer à mettre en œuvre, dès l'investiture, par une volonté claire et résolue, incarnée dans le programme commun, les préoccupations, les propositions de la refondation du Congo. Et ce, par une rupture avec les pratiques rétrogrades du régime sortant et les tragédies qui endeuillent notre pays depuis plusieurs décennies. Le programme commun sera la ligne de crête de notre conduite, de notre engagement auprès de vous et le cadre strict de notre alliance. Aujourd'hui n'est pas la fin d'un combat. C'est à l'inverse la perspective accrue de faire de notre ambition pour la République démocratique du Congo l'action politique de demain.
Et sur terrain, Martin Fayulu Madidi, candidat président de la République numéro 21, membre de l'opposition congolaise, était samedi à Uvira au sud Kivu, dans un rassemblement tenu au stade de l'unité d'Uvira. L'autorité morale décidée s'est prononcée sur son projet de société axé sur une dizaine de piliers et orienté vers tous les secteurs de la vie. Il a parcouru la plaine de la Ruzizi avec plusieurs arrêts avant de s'adresser à la foule. Fiston Goma pour d'autres détails.
Le candidat président numéro 21 n'est pas passé par les dos de la cuillère pour dénoncer une gouvernance caractérisée par la corruption et le vol entretenu selon lui par les animateurs des institutions actuelles. Il a fait allusion à plusieurs projets dont celui des 100 jours et Chile Gelou. Il appelle le peuple congolais à la vigilance et à voter pour lui en vue de changer les choses. Le candidat président numéro 21 a rejeté en bloc les accusations sur sa corruption dans cette campagne par l'Union sacrée. Il suspecte le camp Katumbi d'avoir orchestré ses balivernes alors que ce dernier l'avait quitté à Lamouka pour rejoindre la même mangeoire que Fatshi avant de décamper, une trahison d'après lui qui n'est pas à la énième fois du candidat président numéro 3. Après l'étape d'Uvira, Martin Fayulu Madidi numéro 21 poursuivra sa campagne à Kindu au Maniema. D'Uvira, Fiston Mayabala, Radio Kapi.
Quittons le sud Kivu vers le nord Kivu voisin. C'est le candidat à la présidentielle Denis Mukwege qui séjourne à Goma depuis hier. À son arrivée en début d'après-midi, le candidat numéro 15 est allé s'incliner devant la tombe de Luc Nkulula Mwamba, un militant de la Lucha qui a perdu la vie dans l'incendie de sa maison à Goma le 10 juin 2018. Après cet hommage et signe de son soutien à la lutte pour la démocratie, il a animé son meeting à la tribune de l'ONC. Rosalie Zawadi revient sur les grandes lignes de l'adresse de Denis Mukwege à la population de Goma.
Prix Nobel de la paix, Denis Mukwege promet de travailler pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Si je suis élu président de la République, je vais lutter contre la faim et le chômage des jeunes, a-t-il dit. Les jeunes de l'Est qui se retrouvent dans les groupes armés, il promet de les intégrer dans des programmes agricoles afin qu'ils travaillent pour nourrir le pays. Pour lui, tous ces jeunes, aujourd'hui armés, sont une bombe à retardement pour la République s'ils ne sont pas correctement encadrés. Le candidat numéro 15 a dénoncé les vices qui caractérisent notre pays et qu'il ne va pas tolérer une fois élu président. Candidat indépendant à la magistrature suprême, c'est la synergie des amis des valeurs de Mukwege qui poursuit sa campagne au Nord Kivu après son départ, a dit le président de cette synergie. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Je veux être le candidat président de la paix et du pain. C'est en ces termes que le candidat Jean-Claude Bayindé a résumé son programme hier samedi au cours de son premier rassemblement de campagne à Kingabwa dans la commune de Limete, ici à Kinshasa. C'était devant une foule venue écouter son message. Cet ancien gouverneur de l'Équateur a décliné au moins 5 axes du programme qu'il compte appliquer s'il est élu président de la République. Jean-Pierre Elali Koko nous en dit plus.
Déclinant son programme, Jean-Claude Bayindé a déclaré que la paix et le pain sont des concepts qui conduiront au développement de la République démocratique du Congo, car ces deux concepts constituent tout un projet de société dans la vie des Congolais. Que veut les Congolais aujourd'hui, s'est-il demandé? Les Congolais veulent bien manger, ils veulent se faire soigner, étudier dans de bonnes conditions et avoir de l'emploi, et surtout la restauration de la paix et de la sécurité dans l'est du pays, à Kwamout, et la fin du phénomène Kolouna dans toutes les grandes villes du pays avec une police qui les protège, a-t-il répondu. Pour réaliser ces vastes projets, Jean-Claude Bayindé a mis un accent sur le transport public par la reconstruction des routes, la restauration des voies aériennes, la cuisse fluviale qui relierait tous les points du pays. Sur le plan économique, le candidat Bayindé a fait savoir que le Congo regorge des richesses forestières et minières, mais qui ne profitent pas aux Congolais, qui sont devenus, je le cite, le peuple le plus pauvre de la planète. Il a à la fois de devenir le président de la RDC parce qu'il a les soucis de ce pays et que l'expérience accumulée dans la gestion de la province de l'Équateur, il la mettra au profit de tout le peuple congolais.
Terminons ce chapitre en disant que le candidat Félix Tshisekedi suspend sa campagne électorale pour 3 jours à dater du samedi 2 décembre en hommage aux victimes d'Imbanzangungu au Congo central, annonce faite par la direction de son équipe de campagne. Pour rappel, des morts et des blessés ont été enregistrés à la suite d'une bousculade au stade d'Imbanzangungu où le président avait tenu son meeting vendredi dernier. De son côté, le candidat Floribert Anzoloni a organisé une conférence débat hier à Bukavu, au sud Kivu. Je vous le disais en titre, début ce dimanche du retrait de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est en RDC. Un premier contingent de plus de 100 hommes a quitté Goma ce dimanche matin à destination de Nairobi au Kenya. Ce retrait fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler le mandat de cette force accusée d'inefficacité. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima.
C'est aux petites heures du matin de ce dimanche que plus de 100 militaires kenyans de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est ont quitté la République démocratique du Congo par l'aéroport international de Goma. En mission en RDC depuis une année, ils avaient pour objectif d'occuper les espaces conquis par les rebelles du M23. Accusés par la population de cohabiter avec les rebelles, le gouvernement congolais avait donné à cette force régionale jusqu'au 8 décembre pour quitter le sol congolais. Avant le début de son retrait, ces contingents ont reçu la visite du chef des forces de défense de l'armée kenyane, le général Francis Ogola. Il a félicité les troupes de la force régionale pour le travail réalisé depuis leur déploiement dans l'est de la RDC. Il a aussi visité les contingents kenyans déployés à Goma, ainsi que dans les bases de Kibati et de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma. Jusque-là, nous n'avons pas encore de précisions sur le calendrier de retrait des troupes de cette force qui comprend non seulement les Kenyans, mais aussi les Ougandais et les Burundais. Notamment. La population, elle, salue déjà les débuts de ce retrait. Pour John Banyene, président de la société civile au Nord Kivu, il était temps que cette force quitte la RDC. Pour lui, dans cette force régionale, seuls les contingents burundais étaient du côté de la population congolaise.
En réaction, la société civile du Nord Kivu demande au gouvernement de prendre des dispositions qui s'imposent pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, estime que le gouvernement ne peut pas laisser des milliers de compatriotes à la merci des rebelles du M23-RDF. Ses propos ont été recueillis par Rosalie Zawadi.
Ça revient à la responsabilité du gouvernement congolais. Dès lors que les forces de l'EAC ne seront plus dans les zones contrôlées par les RDF M23. Nous, comme société civile, nous n'avons pas de demande. La seule demande est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, celle de restaurer l'autorité de l'État sur tous les territoires congolais, c'est-à-dire le gouvernement congolais doit tout mettre en œuvre pour bouter hors d'état de nuire ces terroristes, en fait que nos compatriotes qui sont dans les zones sous contrôle du M23 soient contrôlés par le gouvernement congolais, qui est parmi ses responsabilités d'assurer la protection de la population et leurs biens ainsi que l'intégrité territoriale. Je crois que tout revient au gouvernement congolais de prendre des dispositions qui s'imposent.
Restons un instant au Nord Kivu. À Beni, une centaine d'élèves du complexe scolaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ont été sensibilisés samedi à l'entrepreneuriat féminin et surtout à l'égalité des droits entre filles et garçons ainsi qu'à la prévention des violences sexuelles contre les femmes et jeunes filles. C'était au cours d'une activité organisée par un consortium de 4 ONG dont les Jeunes Patriotes et Consolidateurs de la Paix, JPCP. Cette activité rentre dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur les genres. L'objectif de la rencontre est de susciter chez les jeunes filles et garçons les goûts de s'affirmer face aux responsabilités et défis communautaires. Benjamin Asimoni le dit au téléphone d'André Kitenge.
Le grand message que nous avons voulu véhiculer aux jeunes élèves, filles et garçons, c'était qu'ils doivent être aussi des acteurs ensemble, filles et garçons, des acteurs qui se mettent, qui s'élèvent pour cesser avec toute action, tout comportement, toute attitude, toute coutume rétrograde qui serait encore en train de favoriser que la jeune fille soit victime de la discrimination, des actes de violence sexuelle et toute autre sorte de violence dont les femmes et les jeunes qui sont victimes. Et généralement, avec des exemples pratiques, nous avons donc encouragé les jeunes garçons d'avoir ces goûts, de travailler ensemble avec les jeunes filles, parce que c'est en impliquant la jeune fille qu'elle se sent aussi considérée. Mais également, nous avons suscité à la jeune fille, au niveau de cette école, le goût de s'intégrer dans la communauté, c'est-à-dire aussi de s'affirmer face aux responsabilités et défis communautaires, d'accepter de faire partie des groupes communautaires, afin exactement d'avoir l'opportunité d'exprimer ses pensées et d'explorer aussi ses talents.
Parlons de la COP 28. La RDC va bénéficier d'une aide de 60 millions d'euros, le Congo-Brazzaville de 50 millions et la Papouasie de 100 millions pour protéger leurs forêts, annonce faite hier à Dubaï par le président français au cours de son discours. Pour Emmanuel Macron, il faut soutenir les pays qui préservent leurs écosystèmes et c'est une urgence de mettre de l'argent dans ce genre de programmes, ajoute-t-il. On écoute Emmanuel Macron dans cet extrait proposé par Alain Irunga.
Les forêts et les océans font partie de nos COP parce que ce sont des puits de carbone irrécupérables et un levier de solution extraordinaire pour la transition. C'est pourquoi, à l'occasion de cette COP, on va continuer la mise en place d'abord d'une technique commune, mais je veux qu'on avance et qu'on accélère sur une vraie bourse des mécanismes communs de carbone et de biodiversité. On doit emmener beaucoup plus d'argent privé vers les pays qui préservent leurs forêts et leurs écosystèmes. On a lancé ça à Libreville en début d'année. On va conclure avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guinée et le Congo, les premiers, justement, packages nationaux forestiers. Et l'idée, c'est de dire, on met des crédits publics et privés sur les pays qui préservent leurs forêts. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas cette technique. Et donc, on met beaucoup d'argent pour faire de la reforestation. Mais tout pousse des pays pauvres ou émergents à détruire leurs forêts aujourd'hui pour financer des activités économiques beaucoup plus rentables. C'est une urgence de mettre de l'argent dans ces approches pays par pays et d'avoir une méthodologie commune. Et nous investirons 500 millions d'euros dans les 4 prochaines années dans la protection des forêts suivant cette méthode.
Actualité internationale.
Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger claquent la porte du G5 Sahel. Dans un communiqué, les responsables de ces deux pays estiment notamment que l'organisation créée il y a 9 ans pour lutter contre le terrorisme dans l'espace sahélien peine à atteindre ses objectifs. Cette décision des deux pays de quitter la force G5 Sahel n'est pas une surprise. En septembre dernier, après la signature d'une charte de défense de l'Alliance des États du Sahel composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso, les observateurs avaient bien noté que l'attelage s'éloignait davantage de la force du G5 Sahel, réduite aujourd'hui à ses deux piliers, le Tchad et la Mauritanie.
L'invité.
Notre invité ce soir est Omar Kavota, chef d'antenne de Béni du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDD-RCS, dont les agents ont suivi une formation sur l'enregistrement et l'identification des armes et munitions du 29 novembre au 1er décembre 2023 à Béni. Au Nord Kivu, formation organisée par la cellule embargo sur les armes de la MONUSCO. Selon lui, cette formation leur permettra de retracer les différentes armes reçues des combattants qui rejoignent le programme. Omar Kavota s'entretient avec André Kitenge.
Maître Omar Kavota, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de terminer une formation de 3 jours sur l'enregistrement et l'identification des armes et munitions, une formation organisée par la cellule embargo sur les armes de la MONUSCO. Peut-on savoir de quoi il a été question?
Il faut dire que cette formation de 3 jours a consisté essentiellement à renforcer la capacité du personnel du PDDRCS à antenne de Béni. Et à substance, il était question que nous soyons outillés sur les notions d'enregistrement et d'identification des armes et munitions, étant donné que nous gérons le programme de désarmement et à ce titre, nous recevons des combattants porteurs d'armes. Il était ainsi utile que nous puissions être informés ou être formés sur les mesures ou les précautions à prendre et comment retracer les différentes armes reçues ou du moins comment aider les experts à retracer avec nous les armes et munitions que nous recevons.
Y avait-il nécessité pour une telle formation à l'intention de vos agents?
Bien entendu, parce que c'était une réponse même à notre demande. Et nous avons été à l'occasion formés ou informés sur les régimes d'embargo en RDC, les normes standards internationaux de gestion et de contrôle des armes et munitions, parce que le programme a aussi pour vocation de lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, de lutter contre les armes à destination des groupes armés. Et comme vous le savez, même si la RDC est sortie sur le régime des sanctions et d'embargo, mais le régime reste maintenu contre les membres des groupes armés. Et il revient au PDDRCS, attaque institution de l'État, aux côtés d'autres mécanismes mis en place que nous puissions contribuer à documenter sur ces faits pour qu'on puisse décourager des armes et munitions qui sont amenées vers les groupes armés. Mais également, cette formation était capitale pour nous parce qu'elle nous a permis d'être capacités, d'être outillés sur la manière de mener les enregistrements et l'identification des armes et munitions. Et comme je vous ai dit, nous menons le travail de désarmement avec le FRDC, mais à première vue, les combattants viennent d'abord au PDDRCS. Et pour qu'ils soient éligibles, ils doivent être munis des armes et de munitions. Nous devons renseigner, nous devons documenter sur ces armes et ces munitions. Et donc, cette formation était d'une très grande capacité. Mais comme vous le savez également, le PDDRCS, pour les innovations actuelles, a ajouté le respect des droits humains comme une plus-value, comme une innovation fondamentale. Et nous avons été aussi à l'occasion capacités sur des notions des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Donc voilà combien de fois c'était très pertinent pour le personnel PDDRCS dans l'exercice de leurs responsabilités et donc ça a été très bénéfique.
Et qu'est-ce que la communauté peut attendre de vous? Aujourd'hui, vous êtes formé sur l'enregistrement et l'identification des armes et munitions. Il y a la population. Qu'est-ce que la population peut attendre de vous?
La communauté doit attendre qu'elle fait ou elle réalise ce programme avec des professionnels et des professionnels qui ont acquis l'expertise, des experts qui sont connus à travers le monde ou qui sont attitrés. Mais aussi, nous disons que les armes légères et petits calibres qui sont utilisées par les groupes armés, c'est un danger permanent pour la communauté. Nous devons retracer, nous devons tracer ces armes. Nous devons savoir les armes qu'utilisent les groupes armés viennent d'où. C'est vrai qu'au niveau du PDDRCS, nous avons un service chargé de lutte contre le financement des groupes armés. Mais nous devons, dans ce cadre aussi, savoir quelles sont les armes qui utilisent couramment les groupes armés, d'où viennent ces armes, pour que nous puissions aider l'État, pour que nous puissions aider la communauté à pouvoir se sécuriser ou à retracer. tracer tout au moins les auteurs des circuits illicites d'armes vers les groupes armés. Cela peut nous aider aussi à savoir comment est-ce qu'on peut arriver à endiguer ces phénomènes de groupes armés ou de ravitaillement en armes ou en munitions des groupes armés et savoir aussi ces auteurs, ces personnalités ou ces personnes qui violent de manière flagrante l'embargo des armes contre les groupes armés alors que notre pays, qui est membre des Nations Unies, doit aider les Nations Unies à faire respecter l'embargo sur les armes à direction de groupes armés.
Maître Omar Kavota, merci.
Merci à Radio Okapi.
Et c'est la fin de ce journal sur Radio Okapi, supervisé et coordonné par Alain Hirong, mis en onde par Jean-Claude Insiala et présenté par Fulbert Balolagui.